poussière d'étoiles.
Jeunesse, si tu savais, Malte et ses chevaliers.
1er janvier 1523, un ultime et douloureux regard, lancé des remparts, sur la cité de Rhodes, et Villiers de l'Isle-Adam abandonne son palais, celui des grands maîtres de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean, depuis plus de 2 siècles. Il a fallu, après 6 mois de siège, se résoudre à capituler, et désormais il faut quitter l'île. En descendant vers le port, le grand maître parcourt tristement du regard les façades des auberges, une par nation, dans laquelle ont demeuré tant de chevaliers. L'auberge de Provence d'abord, sur sa gauche, en face, l'auberge de la langue d'Espagne. Un peu plus loin, la plus vaste et la plus belle, l'auberge de la langue de France. Une inscription au-dessus de la porte rappelle l'œuvre de son prédécesseur, Emery d'Amboise. Puis les auberges des langues d'Italie, d'Auvergne, d'Angleterre, d'Allemagne. 7 demeures pour les 7 langues de la chrétienté occidentale. Tous les chevaliers se sont battus vaillamment. Mais que faire contre des Turcs presque 100 fois plus nombreux? Villiers de l'Isle-Adam passe la porte de la marine et s'embarque avec les 180 chevaliers survivants pour continuer vers l'ouest, cette prodigieuse aventure de charité, de guerre aussi, commencée vers 1050 sur un terrain vague de Jérusalem. Se dire en effet que tout cela est parti au cœur du XIe siècle, de l'initiative de quelques marchands italiens originaires d'Amalfi, assez habiles pour avoir obtenu des califes dans la ville sainte la concession d'un terrain proche de la maison de Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste. Par la fondation d'un monastère et d'un hospice surtout, il donne naissance à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, dont le but originel est purement religieux. Il s'agit de porter assistance aux pèlerins. Ils sont là avec de nombreux dangers sur cette route de la Terre Sainte. Délivrer le tombeau du Christ, telle fut la mission assignée à la première croisade prêchée par Urbain II. Jérusalem, Jérusalem ! Extraordinaire joie criée dans la chaleur de l'été 1099, lorsque Godefroy de Bouillon et ses Francs investissent la ville, Jérusalem délivrée. À cette nouvelle, les pèlerins affluent, sans cesse plus nombreux, épuisés, malades souvent. Dans leur hospice, toujours plein, les frères hospitaliers s'activent sans répit. Ils s'efforcent d'endiguer ce flot de souffrance, accueillent, réconfortent, soignent, sans distinction de classe, de fortune ou de race. Ils appliquent ainsi la grande règle de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, quand un malade viendra, qu'il soit porté au lit, et là, tout comme s'il était le Seigneur reçu, donner ce que la maison peut fournir de mieux. De nombreux chevaliers s'engagent dans la communauté, dont l'activité va croissant, et qui reçoit dons et privilèges en remerciement des soins prodigués aux croisés blessés. Conscient de son bien fondé, le pape Pascal II reconnaît l'ordre en 1112 et le place sous la protection directe du Saint-Siège. Il approuve ses statuts édictés par le grand maître Roger Dupuis, centrés sur le service des pauvres et la défense de l'Église catholique, et qui insiste sur la chasteté, l'obéissance et l'obligation de ne rien posséder en propre. Ainsi renforcé, assis sur des bases plus solides, l'ordre essaime dans toute la Palestine. Nombre de maisons hospitalières sont fondées. Un pèlerin grec, en 1180, a même dénombré plus de 1000 lits dans le grand hôpital de Saint-Jean-Baptiste. Mais voici que le moine va se faire soldat, soldat du Christ. Comment expliquer cette vocation nouvelle des hospitaliers devenus chevaliers après l'établissement du royaume latin de Jérusalem, le temps, la nostalgie, la désillusion parfois, ou tout simplement le besoin de retrouver leur famille, poussent de nombreux croisés à rentrer chez eux. De ce fait, la protection des pèlerins et la défense de la Terre Sainte ne sont plus assurées. Les hospitaliers, qui recrutaient abondamment parmi les membres de la noblesse chevaleresque, prennent alors en charge la défense des lieux saints et de ceux qui vivent en pèlerinage. Très vite, il faut faire parler les armes pour repousser les agressions arabes, ottomanes et même mongoles. Ils édifient d'imposantes forteresses telles le fameux Krak des Chevaliers, le plus impressionnant nid d'aigle qui soit. Mais ils n'oublient pas leur vocation première. Ils s'emploient à racheter les prisonniers et à soigner les malades. Saladin, profondément impressionné par leur bravoure, alliée à la charité et à la piété, leur permet de rester à Jérusalem pour y accomplir leur fonction de moine soignant. La Terre Sainte, toutefois, devient intenable. Malgré une résistance héroïque, les chevaliers de Saint-Jean sont contraints en 1291 de se retirer de Saint-Jean d'Acre. Chassés de Terre Sainte, ils se réfugient en 1291 à Chypre d'abord, puis à Rhodes, où ils s'installent en 1308. Une superbe cité gothique est édifiée qui abrite les 3 classes de l'ordre, chevaliers militaires, frères servants, chaplains, répartis en 7 groupes nationaux ou langues. Une flotte d'importance s'organise. Les échanges commerciaux s'intensifient. La résistance à l'emprise turque se fait victorieuse. L'ampleur des donations, accrue d'une bonne part des biens des Templiers, dissous en 1312, permet à l'ordre de couvrir l'Europe de maisons hospitalières dites commanderies, destinées à abriter les pèlerins pauvres et à soigner les malades des environs. Les chevaliers de Saint-Jean sont alors dépositaires du savoir médical le plus avancé. Nul doute que leur contact avec la civilisation arabe leur a beaucoup appris. En matière d'asepsie, ils prennent des mesures novatrices, bains à l'accueil des malades, lits individuels, changements fréquents de draps, chambres d'isolement pour les plus atteints, mesures de quarantaine contre les épidémies. Ces moines soldats, par ailleurs, ont acquis sur le terrain une bonne pratique de la chirurgie de campagne. Chaque maison comporte en outre un herboriste et une pharmacopée de première valeur. En 1523, quand le grand maître Villiers de l'Isle-Adam doit quitter Rhodes et fuir les Turcs, il se réfugie encore dans une île, concédée en 1530 à l'ordre par Charles Quint, à Malte. Position stratégique incomparable, au centre du bassin méditerranéen, cette situation va favoriser le rayonnement des chevaliers. Ils font construire de vastes hôpitaux et Malte devient rapidement le phare médical du monde alors connu. On y crée en haut XVIIIe siècle une véritable école de médecine. De considérables moyens financiers, il est vrai, favorisent ces entreprises. La chute de Malte, conquise par Bonaparte en 1798, porte un coup terrible à l'ordre. Cependant, même amoindri et appauvri, il demeure. Désormais, l'ordre souverain militaire et hospitalier dit de Rhodes et de Malte perpétue l'idéal de charité inventé au cœur du Moyen-Âge. Il fonde des hôpitaux, s'engage lors des guerres en créant des hôpitaux auxiliaires. 800 000 soldats y furent soignés lors de la Première Guerre mondiale. Des services d'ambulance, de même que l'Institut de médecine missionnaire. L'ordre poursuit sans relâche ses missions caritatives dans le monde entier. Par-delà les siècles, le chevalier de Malte est resté fidèle à son engagement, qui en fait le serviteur de messieurs les malades.